Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Rien ne prédisposait Jean Todt à embrasser un destin aussi riche en succès. Sa vie est une aventure unique et exceptionnelle. Copilote de rallye à la fin des années 70, il devient ensuite patron du sport chez Peugeot et gagne tout à plusieurs reprises. Le championnat du monde des rallyes, le Paris-Dakar, les 24 heures du Mans. Puis, nouvelle consécration, il devient directeur de la Scuderia Ferrari, en perdition à l'époque en 1993. Il écrira les plus belles heures de la marque italienne avec 6 titres mondiaux constructeurs et 5 chez les pilotes avec son ami Michael Schumacher. Leader né, fédérateur hors norme et dirigeant charismatique, bien que discret, Jean Todt est aujourd'hui président de la Fédération internationale de l'automobile. Toujours passionné par le sport, la course, mais aussi préoccupé, engagé pour améliorer la sécurité routière partout dans le monde. Jean Todt est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Jean Todt, merci d'accepter notre invitation dans Vie d'aventure. Votre vie est une aventure avec un A majuscule. Je voudrais qu'on revienne au tout début. Que vous reste-t-il de vos origines polonaises ?
Mon père m'a peu parlé de ses origines. Il est arrivé en France parce que c'était pour lui le seul moyen de continuer ses études. C'était un élève travailleur et brillant. Et il est venu en France pour faire médecine. Et il n'est jamais retourné en Pologne. Après, puisqu'il a perdu sa mère et son frère en déportation pendant la guerre. Donc finalement, c'est de la famille, c'est moi le seul à être retourné en Pologne à l'époque pour faire un rallye qui était le rallye de Pologne, qu'on avait d'ailleurs gagné avec Achim Warmbold et avec une Fiat 124.
Jean Todt, quel est votre premier contact avec le monde de l'automobile ?
Moi, assez vite, j'ai aimé regarder les voitures, m'intéresser aux voitures, puis à la compétition automobile, jusqu'à ce que ça ne vienne en fait un rêve de devenir à l'époque pilote de course. J'ai mes exemples, mes héros de jeunesse, d'adolescence, c'était Jim Clark et Dan Gurney. Et en fait, c'était ce à quoi j'aspirais. Et puis, la vie, finalement, on a voulu autrement, puisque en 66, je devais avoir 20 ans, j'ai eu l'opportunité de prendre au dernier moment le siège du coéquipier de Guy Chasseuil, qui à l'époque était pilote d'usine NSU. Et je me suis retrouvé donc au dernier moment, puisque son coéquipier était indisponible. Et ça s'est passé très bien, puisque il m'a demandé de continuer avec lui. C'est comme ça que je dirais que j'ai mis le doigt dans l'engrenage.
Alors vous devenez copilote et de pilotes extrêmement confirmés, Anu Mikola, Jean-Claude Andruet, Guy Fréclin, bien évidemment. Quand on rêve d'être pilote, est-ce que au départ, c'est pas un peu frustrant de se retrouver sur le baquet de droite ?
J'ai considéré que c'était un apprentissage, que c'était en fait mon université, avec finalement l'objectif de devenir pilote avait évolué, puisque mon objectif était devenu de devenir un patron d'une équipe de course. Et puis ben, finalement le destin a bien fait les choses, puisque en 81, donc à l'âge de 35 ans, j'ai été engagé par Peugeot pour devenir le patron de la compétition.
Et puis en 81 aussi, vous êtes champion du monde des constructeurs avec Talbot, en étant l'équipier, le copilote de Guy Fréclin. Que vous reste-t-il de cette période, Jean Todt, de copilote ? Quelles sont les qualités que vous avez pu mettre en avant ? C'est quoi l'organisateur ? C'est la rigueur ?
Pour être un bon coéquipier, il faut être quelqu'un d'extrêmement précis, bon organisateur. Moi, j'avais voulu compléter ce rôle de coéquipier en étant parfois le manager, également des pilotes avec lesquels je courais, je participais à l'organisation des courses. Et puis ensuite, eh bien, dans ma carrière, j'avais été souvent amené, quand on parlait de Talbot, mais Talbot, on avait des moyens extrêmement réduits, donc j'avais travaillé pour trouver des budgets supplémentaires pour nous permettre justement de participer à toutes les épreuves du championnat. J'avais été également choisi par les pilotes pour être leur représentant.
Ensuite, vous devenez directeur de Peugeot Sport avec, dans un premier temps, le rallye et l'avènement de cette voiture absolument mythique, la star du groupe B, la 205 Turbo 16.
Alors effectivement, Peugeot décide de s'engager en rallye à un moment extrêmement difficile, compliqué, puisque il y a des problèmes financiers, des problèmes économiques dans le groupe, et la 205 allait être présentée, et je propose de dériver de la 205 une voiture de rallye avec une technologie d'avant-garde, puisqu'à l'époque, la voiture qui commençait à dominer les rallyes était l'Audi Quattro, et nous, on s'est lancé avec une voiture qui allait être une 4 roues motrices, mais contrairement à l'Audi Quattro, dont le moteur serait situé de manière centrale. Donc, le projet est parti comme ça. C'était un projet ambitieux et coûteux, surtout dans un moment où, justement, le groupe était en difficulté. Et puis, il s'est avéré que cette voiture est effectivement devenue la reine des rallyes, puisque on a été champion du monde pilote et constructeur en 85 avec Timo Salonen et en 86 avec Juha Kankkunen.
Ça reste un merveilleux souvenir. Vous avez conscience aujourd'hui, Jean Todt, que cette voiture fait partie, dans l'histoire de l'automobile, de ces références qu'on n'oubliera jamais?
Quand on en parle, ça me rappelle effectivement de très jolis souvenirs, parfois même un peu de nostalgie. C'est un chapitre de ma vie, un chapitre de ma carrière professionnelle. Je me souviens de toutes les émotions, bonnes et mauvaises d'ailleurs, parce que il y a eu des moments terribles, l'accident en 85 de Harry Vatanen au rallye d'Argentine, où pendant plusieurs jours, on a pensé qu'il ne survivrait pas. Et peut-être que là aussi, ça m'a donné l'opportunité de mesurer combien la compétition automobile pouvait être risquée et combien il était important d'engager des mesures de sécurité plus importantes que ce qu'il y avait à l'époque pour faire en sorte que la compétition automobile soit plus sûre.
Alors, tout ce que vous touchez, Jean Todt, se transforme en succès, se transforme en victoire, parce qu'après le rallye, eh bien, il y a le rallye raid, avec le fameux Paris-Dakar, 4 succès entre 87 et 90.
Vous me parlez de ces 4 succès, 205, 405, et ensuite, eh bien, c'est Citroën qui va s'engager dans les rallye raid, qui va gagner de nouveau le Dakar, et puis Peugeot va s'engager dans le championnat du monde des voitures de sport avec la 905 qui, après quelques moments un petit peu difficiles, parce que c'était une manière d'aborder la compétition complètement différente pour Peugeot, des rallyes raid ont passé au circuit, à la piste, avec une vraie voiture de course. Et en 91, c'était l'apprentissage. En 92, eh bien, on devient champion du monde avec une victoire au Mans. Et puis, en 93, on gagne au Mans. Et après la victoire du Mans, qui est en fait même plus qu'une victoire, puisqu'on avait 3 voitures engagées, on termine premier, deuxième, troisième. Entre-temps, j'avais décidé que je voulais faire autre chose. Et puis, ça n'avait pas été possible dans le groupe PSA, et j'avais eu un certain nombre de propositions, dont une proposition de Ferrari de venir prendre la direction de la Scuderia Ferrari, ce que j'accepte, avec des longues discussions, parce que ça n'a pas été une décision ni facile pour moi, ni facile pour Ferrari et le groupe Fiat, mais néanmoins, le 1er juillet 93, eh bien, je débarque à Magny-Cours. J'ai quitté mon bureau chez Peugeot le 30 juin 93 et le 1er juillet, j'arrive avec l'uniforme Ferrari à Magny-Cours pour le Grand Prix de France.
Alors Jean-Todd, on va bien sûr revenir sur l'épopée Ferrari qui reste aussi un fait d'armes exceptionnel, mais d'abord, parce que pour l'instant, tout ce que vous nous racontez, c'est factuel, ce sont des victoires. Vous évoquiez notamment ce triplé aux 24 heures du Mans avec la 905 en 93, mais comment expliquez-vous autant de succès? Comment expliquez-vous que tout ce que vous touchez, vous le transformez en succès?
C'est un peu gênant comme question. C'est beaucoup d'implications personnelles. C'est une grande ambition pour choisir mon entourage, pour choisir les gens qui vont travailler auprès de moi pour exercer différents rôles, hein, que ce soit directeur technique, patron des moteurs, patron de l'aérodynamique, mécanicien. J'ai tout le temps porté une attention particulière au choix des hommes ou des femmes. Et j'ai tout le temps été extrêmement exigeant et ambitieux par rapport à ces choix. Et puis ensuite, et ben mon rôle a été d'être un petit peu le chef d'orchestre pour pouvoir ensuite atteindre les résultats qu'on souhaitait obtenir. Et c'est vrai que globalement, parfois ça a pris un peu de temps, notamment chez Ferrari, mais néanmoins, on est arrivé à atteindre nos objectifs.
Votre qualité principale, Jean-Todd, c'est la rigueur ?
J'aime pas tellement répondre à ma qualité principale. C'est toujours un ensemble de choses. Donc, je suis rigoureux, à la limite de l'angoisse, parfois de l'obsession. Il y a plus d'un ingrédient pour pouvoir obtenir quelque chose. Il faut cumuler un certain nombre de qualités qui sont parfois des contraintes pour pouvoir espérer obtenir des résultats.
En 1993, vous l'avez dit, vous êtes appelé par Luca de Montezemolo pour diriger la Scuderia Ferrari. Vous êtes le premier dirigeant étranger. Quel est votre sentiment de prendre les rênes d'une écurie qui est en difficulté à ce moment-là, qui ne gagne plus ?
Qui ne gagne plus depuis 1979 et qui est vraiment peu performante. Et on sait ce que représente Ferrari, déjà, pour le monde de la compétition automobile, pour tous les tifosi dans le monde, il y en a des millions, mais encore plus en Italie, où il y a une attente énorme avant et après chaque course. Et là, malheureusement, eh bien, depuis 1979, plus rien ne se passait. Les têtes tombaient et changeaient facilement et régulièrement. Et en fait, quand je suis arrivé, ça n'a pas été une décision facile, mais quand je suis arrivé, eh bien, j'ai été plutôt mal accueilli, parce qu'on a pensé, ben voilà un autre qui va arriver, cette fois-ci il est français, il va arriver, et puis dans un an, ou plus tard dans deux ans, il va partir. Et d'ailleurs, c'était ce que m'avait prédit Alain Prost, qui lui avait piloté la Ferrari en Formule 1, qui avait fait partie de l'équipe, et qui m'avait dit... c'est impossible, tu ne pourras pas y arriver. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'avait encore stimulé encore plus pour accepter ce défi.
Impossible n'est pas Jean-Todd, puisque dès l'année suivante, en 94, vous retrouvez le chemin de la victoire, ce qui n'était pas arrivé depuis 4 ans.
Une victoire avec Berger en Allemagne.
Ouais, avec Gerhard Berger, l'Autrichien.
Au Grand Prix d'Allemagne.
Et 95, avec un succès...
Une autre victoire,
ouais.
Effectivement.
Jean Alési, sa première et sa seule victoire au Canada.
Au Canada.
Et puis, il y a quand même un moment capital dans votre carrière chez Ferrari, c'est le recrutement de Michael Schumacher à la fin de cette année 95 qui va vous permettre de composer peut-être le duo le plus performant de l'histoire de la Formule 1.
Alors effectivement, Michael remporte le titre en 94 et en 95. Donc, c'est la référence. Je me souviens à l'époque, tout le monde se jetait la responsabilité pour expliquer pourquoi on ne gagnait pas. Et je me suis dit que si on avait le pilote de référence qui était Michael, eh bien, au moins, on aurait un paramètre de rempli. Mais derrière, il fallait lui donner la voiture, puisqu'on sait très bien, et ça on le voit tout le temps, pour gagner, il faut que tous les éléments soient rassemblés et il faut que tout soit au plus haut niveau. Compte tenu de la férocité de la compétitivité qui existe en Formule 1, il fallait derrière lui donner la voiture avec le moteur, et c'était pas la chose la plus facile parce que il fallait justement compléter l'équipe, et j'avais commencé évidemment à renforcer l'équipe, à renforcer l'infrastructure, dans la mesure où on avait un magnifique site, mais le site était vide, donc il fallait mettre des moyens de simulation en place, une soufflerie, des bancs moteurs, et puis évidemment amener des hommes et des femmes pour renforcer l'équipe, sachant que à l'époque, toute la partie du développement, et ça c'était un héritage que j'avais eu, toute la partie développement se faisait en Angleterre, ce que je trouvais absolument incompatible pour pouvoir gagner et être compétitif.
En tout cas, ça fonctionne, hein, puisque vous remportez un premier titre constructeur en 99, hein, ça n'était pas arrivé depuis 1983, avec à l'époque, on s'en souvient, Patrick Tambay et René Arnoux. Et puis, il y a ce quintet magique de 2000 à 2004, 5 titres de champion du monde constructeur et pilote avec Michael Schumacher. Mais comment expliquez-vous, en restant modeste, je sais que vous aimez rester discret, Jean-Todd, mais ce renouveau chez Ferrari, bien sûr qu'il y a les hommes, bien sûr qu'il y a les infrastructures, mais passer de rien à tout, ça force et le respect et les interrogations.
Alors déjà, on est passé de rien à beaucoup, mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été rapide, ça a été souvent une grande souffrance. Hein, souvent le soir, je rentrais chez moi en me demandant si le lendemain on n'allait pas m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et je pense que la solidarité de l'équipe, l'engagement de toutes les forces mises ensemble, tout ceci a fait que on est arrivé à construire, c'est un mot un peu exagéré, mais une machine de guerre. Et on est devenu la référence.
Ce qui est fascinant ensuite, Jean-Todd, c'est que vous devenez directeur général de Ferrari, en plus de la direction de la Scuderia, puis administrateur délégué. J'ai envie de vous dire qu'avec Michel Platini, vous êtes clairement l'un des héros français de l'autre côté des Alpes. Et on s'en rend compte. Moi, je vous ai vu régulièrement en Italie sur les circuits, notamment à Monza. Vous êtes une idole pour les tifosi.
L'accueil avait été froid, mais et je vous disais aussi tout à l'heure qu'on pensait que je résisterais un an, deux ans, et puis qu'après, on me ferait partir. Et puis finalement, et ça, je pense que c'est probablement une des choses dont je suis le plus orgueilleux, c'est le fait que 16 ans plus tard, j'ai décidé que j'avais envie de partir pour faire autre chose.
C'est important ce que vous dites, Jean-Todd. C'est vous qui avez décidé du moment, de l'instant où vous alliez partir.
Exact. Et j'ai considéré que j'avais fait mon temps, que j'avais accompli la mission qui m'avait été désignée et que je voulais faire autre chose.
Je voudrais qu'on reste pour l'instant un petit peu dans le monde de l'automobile et qu'on s'intéresse à deux relations extraordinaires qui ont aussi bouleversé votre carrière et votre vie. D'abord, cette relation avec Michael Schumacher, qui est plus que votre pilote, qui est devenu votre ami aussi.
Absolument. Et on fait des rencontres. Et il y a le bon destin, le bon destin. ça a été le bon destin de le rencontrer et de pouvoir faire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait ensemble. Et puis, bon, malheureusement, le 29 décembre 2013, il est mal tombé. Il a tapé un rocher qui a provoqué des séquelles importantes. Et donc, et depuis ce moment, Michael lutte, très bien entouré par une équipe médicale formidable, par une famille extraordinaire, une femme, Corinna, des enfants, Mick et Gina, qui sont proches de lui. Et évidemment, je suis resté peut-être encore plus proche de lui et de sa famille pour être engagé dans un autre combat.
Jean-Todd, vous avez dit il y a quelques jours, j'espère que le monde, les fans, pourront le voir à nouveau. C'est un vrai message d'espoir, ça.
La question était, est-ce que j'espère qu'un jour, il pourra de nouveau avoir un contact plus officiel avec le monde extérieur. Et j'ai dit, bien sûr que je l'espère. Donc, voilà, et parfois c'est un petit peu interprété, mais cela étant, mon souhait n'est pas une interprétation, c'est une réalité.
Jean-Todd, vous êtes un des rares à aller le voir, en dehors de ses tout proches, de son cercle familial.
Oui, ben je le vois très régulièrement, je vais d'ailleurs le voir demain soir, et je l'ai vu il y a une dizaine de jours, donc je vois Michael une à deux fois par mois, bien sûr.
Dans les autres rencontres importantes de cette période des années 2000, il y a aussi cette rencontre amoureuse avec Michel Yeo, qui vous accompagne très souvent, que ce soit sur les circuits ou dans les représentations officielles. Elle aussi a bouleversé votre vie, Jean-Todd, même si je sais que vous êtes très pudique.
Oui, là aussi c'est le destin, parce que je venais d'être nommé directeur général de Ferrari, et donc du coup, il a fallu que je prenne tout le programme qui était normalement prévu pour Luca di Montezemolo, qui était le président administrateur délégué. Donc je me suis retrouvé avec un nouvel emploi du temps. Je ne souhaitais pas d'ailleurs aller en Chine à cette période, parce que la semaine d'après, on avait le Grand Prix du Canada. Mais finalement, je n'ai pas eu le choix, je suis parti en Chine. Et bien m'en a pris, puisque j'ai rencontré Michel le 4 juin 2004, à un événement où il y avait 700 personnes, à Shanghai. Et puis vous voyez, ça a été le bon dessin, puisque on partage notre vie depuis maintenant un peu plus de 16 ans.
Vous êtes quelqu'un de très discret, Jean-Todd. Néanmoins, sur les circuits, on vous voit très souvent main dans la main. On a l'impression que vous ne formez qu'un avec Michel Yeo, votre compagne, cette actrice.
Écoutez, c'est vrai, on s'entend bien, on partage des valeurs, on partage des passions, et je crois que c'est très rare, et surtout c'est encore mieux quand c'est durable. Et au bout de 16 ans, on commence à dire que ça fait un peu de temps. Et vous savez, il y a un autre aspect qui est formidable, puisqu'en fait je me suis séparé de ma première femme, mon fils Nicolas avait 7 ans, et il a fallu que je rencontre Michel en 2004, donc 20 ans plus tard, pour que je puisse partager ma vie avec quelqu'un qui avait grâce aux yeux de mon fils. Donc là aussi, c'est probablement un exploit dont je suis assez fier.
On reparlera de Nicolas, qui est lui aussi engagé dans le monde de l'automobile dans quelques minutes. Mais une question un peu personnelle, j'espère que vous allez y répondre, Jean-Todd. Quel amoureux êtes-vous ?
Bah là, franchement, vous savez, il faudrait demander ça à Michel, hein. On est bien ensemble, donc c'est naturel. Vous savez, tout ne s'explique pas dans la vie. Il y a des choses qui se font naturellement. Et en fait, la complicité entre, je pense, une admiration réciproque, des valeurs communes, je vous le disais, font que les choses se font naturellement. Et c'est d'ailleurs, les plus belles choses se font naturellement. L'amour, l'amitié, le respect, c'est quelque chose qui ne se dicte pas. C'est quelque chose qui se fait tout seul.
Alors on va revenir à cette carrière, parce que Il y a eu la période copilote, la période Peugeot, la période PSA, ensuite le règne Ferrari, puis en octobre 2009, là, vous décidez de vous présenter à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile et vous gagnez devant un pilote que vous connaissez parfaitement bien parce que ça a été votre pilote, Harry Vatanen. Vous aviez envie aussi peut-être de rendre au monde de l'automobile tout ce qu'il vous avait apporté précédemment ?
Oui, absolument. J'aime la compétition automobile, j'aime la mobilité en général, j'aime la voiture, j'avais un intérêt pour améliorer la sécurité dans le monde, pour mieux faire connaître, mieux adresser ce fléau qui fait mourir 1 400 000 personnes tous les ans sur les routes dans le monde, qui blesse avec un handicap entre 30 et 50 millions de personnes tous les ans. Donc, je pensais que, en étant à la tête de la FIA, eh bien, ça me donnerait une plus grande légitimité, justement, pour partir en croisade, pour essayer de participer à mieux faire connaître cette pandémie, qui est une pandémie que l'on peut mettre au même niveau que celle que nous vivons maintenant depuis plusieurs mois, qui est le Covid-19. Et contrairement au Covid-19, qu'on ne sait pas soigner tant qu'on n'aura pas trouvé le vaccin, eh bien, les accidents sur la route, on a le vaccin, et souvent, principalement dans les pays en voie de développement, eh bien, pas suffisamment d'efforts sont faits pour adresser le problème.
Vous êtes d'ailleurs envoyé spécial de l'ONU en matière de sécurité routière depuis 2015. Et là, vous avez un véritable bâton de pèlerin, Jean Todt. Vous parcourez le monde, des dizaines, des centaines de voyages, notamment dans ces pays sous-développés, pour prêcher la bonne parole, pour permettre justement à ce que cette sécurité routière soit un des fleurons de la politique locale.
Absolument. D'ailleurs, je visite environ 50 pays par an et je les visite aussi bien en ma qualité de président de la FIA et puis également avec ma casquette d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière dans le monde.
Vous avez été élu en 2009, réélu en 2013 et en 2017. Qu'est-ce que vous avez changé dans le monde de l'automobile en toutes ces années ?
Essayer de faire en sorte que la compétition automobile eh bien, soit plus verte, avec notamment la création d'un championnat de Formule E, la Formule électrique. Ensuite, nouvelle motorisation en Formule 1 depuis 6 ans maintenant, nous avons des moteurs hybrides. Et puis, de l'autre côté, la partie mobilité, justement, avec cet engagement pour l'environnement et pour la sécurité routière.
Jean Todt, je voudrais qu'on revienne aussi sur les à-côté de votre vie, parce que certains ne le savent peut-être pas, mais vous êtes aujourd'hui vice-président et surtout fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière que vous avez créé avec votre ami le professeur Gérard Saillant et avec Michael Schumacher aussi. Là encore, c'est important pour vous de mettre ce que vous êtes, ce que vous représentez au service d'une noble cause comme celle-ci pour faire avancer la recherche médicale.
Justement, je pense qu'on a eu le privilège d'avoir une certaine réussite dans sa vie, eh bien, il faut donner quelque chose en retour. Et parmi les autres choses où je suis passionné et où je pense pouvoir donner une certaine contribution et un apport de ma personne, c'était dans la création d'une fondation pour la recherche médicale. Et on a fondé l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est basé maintenant sur le site du plus grand hôpital français, l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et nous avons 25 000 mètres carrés avec 700 chercheurs. C'est un projet extrêmement original, puisque c'est un projet dont les fonds émanent à parité entre le public et le privé. Et je crois qu'on est maintenant classé comme numéro 2 en matière de recherche sur le cerveau, ce qui est quelque chose de formidable. Et surtout, j'insiste sur le fait qu'il y a eu des avancées extraordinaires en matière de technologie. Mais on est encore très loin d'avoir compris l'être humain. On ne sait pas tellement de choses vis-à-vis de l'être humain. Et notre institut devrait pouvoir permettre de mieux vivre si on arrive justement à progresser sur des maladies comme Parkinson, Alzheimer, la sclérose en plaques et beaucoup d'autres. Et regardez aujourd'hui, je dirais, cette non-connaissance du Covid-19, tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin, eh bien, on est vulnérable. Et il y a beaucoup d'autres maladies où, malheureusement, on est vulnérable. D'ailleurs, l'épreuve que la planète est en train de vivre fera en sorte que les gouvernements décideront d'investir encore plus en matière de recherche médicale.
Jean-Todd, est-ce que c'est l'hypocondriaque que vous êtes qui parle aussi, là, en ce moment ?
Non, absolument pas. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est toujours passionné et avec un minimum de bon sens. Et puis peut-être une certaine expérience de la vie à mon âge maintenant avancé.
Parmi les gens qui vous entourent, qui sont aussi discrets que vous, il y a votre fils Nicolas, qui est aussi engagé dans le monde de l'automobile puisqu'il est manager de pilotes et notamment de Felipe Massa, de Charles Leclerc, et on ne va pas tous les citer. Que pensez-vous du parcours professionnel de Nicolas Todd, votre fils unique ?
Moi, je suis très fier, parce qu'en plus, ce parcours, il ne le doit qu'à lui. Parfois, les gens peuvent penser que c'est un avantage d'être mon fils, mais ça peut l'être. Mais je pense que c'est plus un désavantage qu'un avantage, parce que déjà, on nous compare. Et puis en plus, souvent, le fait des positions que j'occupe me bloque beaucoup pour éviter des conflits d'intérêts. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est très sensible à tout ce qui peut être interprété comme un conflit d'intérêts. Donc, il a fallu qu'il se fasse son chemin tout seul. Je suis très fier de la manière dont il y est arrivé. Et avec les valeurs qu'il cultive, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, honnête, fiable. Mais je crois que vous le connaissez assez bien, donc... Vous pouvez en parler aussi.
Non, mais c'est vrai, Jean-Todd, pour vous connaître, vous, depuis des années, et Nicolas aussi, je trouve que vous vous ressemblez dans votre approche des choses, dans cette rigueur qui vous caractérise et dans cette méfiance aussi qui vous entoure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
C'est vrai, il est peut-être encore plus méfiant que moi.
Jean-Todd, toujours un parallèle avec Nicolas, votre fils, et un moment terrible dans votre vie, je voudrais qu'on y revienne. En 2015, la mort de ce jeune pilote français, Jules Bianchi, après son terrible accident à Suzuka au Japon lors du Grand Prix disputé en 2014, ça reste, je sais, quelque chose de très pénible à vivre pour vous que cet accident lorsqu'il a percuté brutalement un véhicule de chantier qui se trouvait sur les à-côtés de ce circuit au Japon.
Effectivement, je me rappelle très bien et le hasard fait que mon fils n'était pas allé au Japon pour le Grand Prix.
Votre fils qui était son manager à l'époque.
Absolument, c'est lui qui avait d'une certaine manière découvert Jules qui était un énorme talent et un garçon formidable. Et on était ensemble devant notre écran de télévision quand on a vu cette sortie de route terrible et on l'a vu... s'encastrer dans cette machine, mais là j'ai compris que c'était quelque chose qui était extrêmement sérieux et mon fils a été profondément choqué parce que vous disiez tout à l'heure c'est Nicolas est mon fils unique et il considérait Jules comme son petit frère.
Et donc, évidemment, quand on pense à cet accident, eh bien, on pense à Jules, on pense à ses parents. Et dans tous les moments tristes, il y a néanmoins des jolies histoires, puisque c'est Jules Bianchi qui avait présenté Charles Leclerc à mon fils en lui disant « Tu devrais t'intéresser à lui parce que c'est un grand talent. » Et puis, donc, c'est grâce à Jules que Charles travaille avec avec mon fils, et probablement grâce à Jules que Charles aujourd'hui est chez Ferrari.
Alors on va évoquer l'avenir maintenant, Jean-Todd, parce que après 3 mandats à la tête de la Fédération internationale de l'automobile, vous ne pouvez pas vous représenter. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez 74 ans, mais vous ne pourrez pas prendre une retraite bien méritée. Vous êtes trop actif pour ça. Est-ce que vous allez accepter de nouvelles responsabilités ?
J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Beaucoup de choses qui me passionnent. Et puis, vous savez, on a beaucoup parlé de destin. Je crois que je suis assez curieux de voir ce qui peut s'offrir à moi.
Est-ce qu'on peut imaginer un retour en Formule 1 ? Je me tourne du côté de chez Ferrari, où ça va pas très fort en ce moment.
Non, ça c'est exclu, j'adore la Formule 1. Et vous savez, je crois que quand on a goûté à quelque chose, surtout avec succès, et que c'est terminé, c'est terminé. Donc, il faut penser à d'autres choses. Et puis, il y a tellement de choses intéressantes, fascinantes, de challenges qu'on peut se fixer que je pense que ça serait une erreur de se dire on va revenir. D'ailleurs, si j'ai voulu partir, c'est que j'ai considéré que j'avais fait mon temps. Donc, mon temps en tant que patron d'une équipe de Formule 1, il est passé. Mon temps en tant que patron de la FIA, il sera passé, donc il faudra voir si je suis capable d'ouvrir un nouveau chapitre, sachant que le nouveau chapitre, il peut être également assez simple, et il peut être simplement eh bien, de profiter un petit peu de ce que j'ai pu faire autour de moi, et puis j'ai l'intention de publier un livre qui sera justement un condensé des différents chapitres dont on a parlé, que vous avez parlé de ma vie privée, donc là aussi peut-être m'en occuper un peu plus, et peut-être que éventuellement mon fils pourra me proposer un job, qui sait.
Est-ce qu'on pourrait imaginer pour vous, Jean-Todd, un destin politique ?
Non.
En France ?
Non, déjà vous savez, là je crois que c'est formidable, parce que la politique s'est énormément rajeunie, ça c'est une bonne chose. On a des politiques qui sont extrêmement compétents, qui ont un travail très difficile, et je ne les envie pas. Et franchement, mon destin, c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu, il est plus international. Donc, j'ai envie de faire des choses pour mon pays, mais j'ai envie aussi de faire des choses avec une idée plus large.
Question personnelle, Jean-Todd, si vous n'aviez pas eu ce destin, qu'auriez-vous rêvé de faire de votre vie ?
Vous savez, pour moi, il y a eu une date très importante. Ça a été 1981, parce que j'avais décidé que j'arrêterais d'être coéquipier de rallye, et mon rêve, c'était de devenir patron d'une équipe de course. Et ça a pu se réaliser. Franchement, mon rêve, c'était la voiture. Et si j'avais pas fait la voiture, eh bien, il aurait bien fallu que je gagne ma vie. Donc, j'aurais fait quelque chose, mais je ne savais pas quoi.
Vous êtes heureux aujourd'hui, Jean-Todd ?
Alors, heureux, c'est pas vraiment dans ma nature. Je suis privilégié. Mais je vous ai souvent dit pendant notre entretien que j'étais angoissé, que j'étais perfectionniste. Donc, c'est quelque chose qui fait souffrir. Mais là aussi, le fait d'être très engagé, très concerné par tout ce qui se passe, je pense que ça vous enlève une possibilité d'être heureux comme on pourrait penser pouvoir être heureux. Mais à côté de ça, je suis arrivé à faire tellement de choses qui m'ont passionné et qui me passionnent toujours que je suis plus un privilégié qu'un heureux.
Éternel insatisfait ?
Peut-être un peu, toujours. J'avais un de mes amis qui s'appelait Alain Ayache, qui avait des publications, Et il disait, le comble de l'orgueil, c'est l'humilité, et seuls les médiocres ont atteint leur maximum. Donc je suis loin d'avoir atteint mon maximum.
En quoi pouvez-vous dire, Jean Todd, que vous êtes, depuis des décennies, un aventurier de la vie ?
J'ai beaucoup d'admiration pour les vrais aventuriers qui décident de faire le tour du monde en solitaire, en bateau, qui décident de monter sur les plus hauts sommets du monde. Ça, c'est de la vraie aventure. Moi, je dirais que je suis un aventurier calculateur.
Est-ce que vous êtes aussi un explorateur de votre domaine, l'automobile, la course automobile ?
On a créé des nouveaux standards, mais tout ça, c'est très fragile, parce que j'irai justement, il y a tout le temps une marge de progression, et là c'est lié également à la technologie. Et quand vous voyez l'évolution de la compétition automobile, l'évolution de l'automobile sur les derniers 100 ans, c'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant de voir quelle a été l'évolution des voitures. Et puis, un autre côté fascinant, c'est de se dire comment la compétition automobile, comment l'automobile va évoluer dans les 20 ou 30 années qui suivent. Hein, on parle de voitures connectées, on parle de voitures autonomes. Alors, c'est vrai que ça va arriver. Ça va arriver moins vite dans les pays en voie de développement, mais néanmoins, il y a une révolution absolument stupéfiante.
Jean-Todd, c'est passionnant de vous entendre, vous confier aussi, comme rarement. Je l'ai dit plusieurs fois, vous êtes discret, parfois méfiant. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas une protection ?
J'ai pas fait beaucoup d'études sur, je dirais, la psychologie, mais chacun a une manière de se protéger, de s'exprimer. Quand j'étais gamin, j'étais beaucoup plus timide. Donc là, j'ai bien progressé par rapport à ça, mais j'ai tout le temps été réservé. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me va assez bien de me protéger. Et puis, finalement, d'être capable d'avoir une vie privée qui ne soit pas trop étalée, comme c'est souvent le cas, de ne pas en avoir besoin. Et puis, à côté de ça, d'avoir une vie professionnelle intense qui me permet de faire beaucoup de choses qui me passionnent.
Allez, encore une question. Vous remettez votre casquette de spécialiste de la Formule 1. C'est une question que tous les fans français ont envie de vous poser, Jean Todd. À quand un pilote français champion du monde de Formule 1 pour succéder à Alain Prost ?
Bah écoutez, vous savez, là-dessus, il faut qu'il y ait un pilote français qui soit capable de bénéficier d'une voiture de très haut niveau. Franchement, j'ai pas une réponse à votre question. Aujourd'hui, bah, j'espère que ça arrivera. D'une certaine manière, mon fils, il pourrait vous répondre plus facilement que moi parce que il est plus dans l'actualité des jeunes pilotes talentueux. Regardez, la France domine avec des pilotes de rallye, avec Sébastien Loeb et puis maintenant Sébastien Ogier, qui depuis une quinzaine d'années domine les rallyes. Là aussi, c'est une question d'opportunité.
Et Jean Todd, si vous aviez à votre disposition une baguette magique, que feriez-vous ?
Si j'avais une baguette magique, eh bien, je ferais en sorte que tous les gouvernements dans le monde, les 200 gouvernements dans le monde, s'engagent de manière à ce que la sécurité routière soit parmi les priorités et je ferai en sorte que tous les remèdes pour améliorer la sécurité routière eh bien, soient mis en action. Dans tous les pays en voie de développement, eh bien, la situation est catastrophique. Donc, c'est là que si j'avais une baguette magique, j'interviendrai.
Jean Todd, merci infiniment d'avoir consacré du temps pour répondre à mes questions pour Vie d'aventure, parce que clairement, dans ce domaine très vaste de l'automobile, depuis plusieurs décennies, vous êtes un aventurier. Merci beaucoup, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont en apprendre pas mal sur vous, sur votre vie et sur votre sensibilité.
Merci, Denis.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.